journée selon Patrick Lagacé.
Bonjour Patrick.
Salut Marie.
Le premier ministre Justin Trudeau qui était à Québec hier, c'était pour participer à la cérémonie soulignant le premier anniversaire de l'attentat à la mosquée. Et puis il a lancé une craque au groupe ultra-identitaire La Meute. Si tu veux Patrick, on va écouter ça ensemble.
Des discriminations contre la communauté musulmane, on sait c'est qui? C'est les racistes, c'est l'autre. C'est les nonos qui se promènent avec des pattes de chien sur le T-shirt. C'est toujours l'autre. Mais non. Mais pourquoi le mot islamophobie nous met mal à l'aise?
Alors, il y a controverse aujourd'hui parce que la question est posée, est-ce que c'était l'endroit et le moment pour passer ce message-là? Et qu'est-ce qui dérange, selon toi? Est-ce que c'est parce qu'il a attaqué la meute ou bien qu'il a employé l'expression « nono » ou parce qu'il a parlé d'eux dans un moment aussi solennel?
Écoute, moi, je veux te dire, ça fait longtemps que j'emploie les mêmes termes pour parler de ces gens-là. Est-ce que tous ceux qui sont dans la meute sont des racistes? Je sais pas. Mais quand je lis la meute, puis quand je lis les leaders de la meute, et quand je lis les captures d'écran qui sont faites des groupes où ces gens-là vont, il y a beaucoup de racistes au pied carré. Puis bien évidemment, la défense, c'est toujours « ben je suis pas raciste ». Mais non, mais t'es obsédé par l'immigration, moi je trouve que c'est du racisme. Après ça, est-ce que c'est le travail d'un premier ministre d'utiliser ces mots-là dans ce moment-là? Écoute, on leur reproche toujours d'avoir la langue de bois. Ça fait un an. S'il avait fait ça il y a un an sur la tribune, moi j'étais là le quelques jours après, on gelait le proche du centre musulman. Je pense que ça aurait été déplacé, Marie. Un an après, ouais. Dans une cérémonie commémorative qui souligne le meurtre de 6 musulmans, si c'est pas le moment pour parler de la peur irrationnelle qu'inspirent les musulmans chez certaines personnes, c'est calme, maman. Tu comprends? Moi, je trouve que c'était correct de nommer les choses. C'était bien correct de nommer les choses. Après ça, on peut s'obstiner à savoir si c'est un premier ministre devrait utiliser ce mot-là. Bon, je suis prêt à débattre de ça, mais sur le fait que les gens qui sont enragés, faut pas leur donner de répit, j'ai pas beaucoup de problèmes avec ça. Comme j'ai pas beaucoup de problèmes à sonner les cloches des imams qui appellent à lapider des homosexuels, etc., etc. Je pense qu'il faut pas faire d'accommodement raisonnable avec les discours qui sont, disons, aux extrêmes de nos débats politiques.
Mais Patrick, de mon côté, mon questionnement sur la mention par le premier ministre du Canada, c'était un peu comme si tu prenais quelqu'un qui fait des commentaires épais sur Facebook puis que tu le nommais dans un discours. C'était plus sur l'attention qu'on leur donne à eux autres qu'il faut effectivement nommer les choses. Puis c'était la bonne journée, je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. Mais eux autres doivent jubiler que le premier ministre du Canada les a nommés hier.
C'est sûr, il y a une école de pensée selon laquelle il faudrait jamais parler de ces gens-là. Faut pas leur donner d'attention. Moi, je trouve que quand des gens organisent une manif et sont à quelques centaines, c'est un peu difficile de pas en parler. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Ils existent, ils prennent position, ils vont faire des manifs devant ils appellent à faire des manifs devant des mosquées où il s'est absolument rien passé. Et je pense qu'il faut dénoncer ça, sincèrement. Puis je vais le dire, je l'ai dit à Montréal, je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans les médias, il y a beaucoup de gens en politique qui semblent avoir peur de nommer les choses. Pourquoi? Parce que ces gens-là nous écoutent, parce que ces gens-là votent pour nous quand on est en politique. Puis faudrait surtout pas... faudrait surtout pas les flatter dans le mauvais sens du poil. Moi, je suis pas d'accord. Des groupes haineux, faut les dénoncer. Qu'importe ce qu'ils prêchent, puis je m'excuse, quand t'es obsédé par l'immigration, là, puis quand t'as un discours paramilitaire, t'es en train de flirter avec le racisme. C'est plate, on n'aime pas ça penser qu'au Québec, il y en a. Je l'ai dit mille fois, le Québec n'est pas raciste, mais comme partout ailleurs, il y a des racistes. Il faut arrêter de se mettre la tête dans la neige.
Ouais, j'ai souri quand tu as parlé de flatter sous le sens du poil. Évidemment, la meute, du poil de loup, ça a l'air dru un peu. Ça dépend de quel bord tu le prends. Écoute, le débat avance pas du tout, là, parce que sur Facebook, Sylvain Brouillette de la Meute lui parle du premier ministre comme d'un, j'ouvre les guillemets, un trou de cul. Alors, le débat lève pas, là.
Ben, écoute, je pense que les personnes de bonne volonté, c'est à elles qu'il faut s'adresser. Si tu te lèves le matin et tu penses que la charia est sur le bord d'être instaurée au Québec, excuse-moi, là, mais il n'y a pas grand-chose que je vais pouvoir te dire pour te faire changer d'idée.
Exactement. Il faut que je te parle du Parti québécois, Patrick. Parce que là, c'est le fun. Là, moi, je trouve qu'on assiste à toutes sortes de choses concernant le PQ. Mauvais sondage en fin de semaine. 20 % des intentions de vote selon le sondage Léger Le Devoir. Mais on entendait les journalistes, les chroniqueurs dire « mais on semble stopper l'hémorragie au PQ ». Et arrive cette surprise du chef, Véronique Yvon, nommée co-chef au Parti québécois. Qu'est-ce que tu as pensé de cette initiative de Jean-François Lisée?
Bien, d'abord, ça circulait. Hein? C'était un peu dans l'air. Nous, à Deux Hommes en Or, vendredi, on a reçu Mme Yvon. Et PY, mon co-animateur, Pierre-Yves Lard, a essayé de lui tirer les verres du nez. Bon, elle était assez évasive. Et puis, bon, là, ça a été annoncé. Moi, je ne suis pas surpris. Je trouve ça habile. Mais c'est un couteau à double tranchant, parce que c'est sûr que Mme Yvon, c'est une des personnalités politiques, je pense, les plus consensuelles au Québec. C'est difficile de ne pas aimer Véronique Yvon. Faut vraiment que tu te lèves la nuit pour haïr les séparatistes pour pas aimer Véronique Yvon, parce qu'elle a une approche politique qui est consensuelle. On l'a vu comment elle a mené le dossier là, de l'aide médicale à mourir au Québec. C'est elle qui a fédéré toutes les forces autour de ça. Mais d'un autre côté, ça envoie pas le signal que ton chef est très bien en selle, que ton chef est populaire. Tu sais, si tu as besoin d'avoir une co-chef, c'est quelque chose qui est inventé un peu sur le fly en bon québécois. On dira que Québec solidaire a aussi des co-chefs, mais c'est dans leur statut règlement, si je ne m'abuse.
Oui, mais les trucs à deux têtes, des fois, ça fonctionne pas. Hein?
Ben, généralement, là, au Canada, au Québec, quand tu annonces une forme ou une autre de tandem comme ça, c'est parce que ça va pas super bien, généralement. Quand l'idée flotte, là, il y a très longtemps en politique fédérale, là, les conservateurs, vers la fin de l'ère Mulroney ou après, là, ont jonglé avec cette idée-là, c'est pas le signe que ça va super bien. Quand t'es fort dans les sondages, tu sais, à la CAQ, il y a personne qui se dit « Hey, Nathalie Roy devrait être co-chef de la CAQ ». L'idée circule pas. C'est quand ça va mal que l'idée circule. C'est là que je te dis que je pense que c'est un couteau à double tranchant. Mais c'est très habile de donner plus de visibilité et de responsabilité et d'annonce à une femme qui, selon moi, là, ratisse en dehors de la grande famille péquiste.
Mais Jean-François Lisée vient-il d'avouer publiquement qu'il est incapable de rallier les forces?
Ben, c'est ça. C'est là que je te dis, tu sais, les gens vont juger comment ça va être reçu. Je sais pas, mais généralement, c'est pas le signe que le chef est en selle. Mais de ce que j'entends à propos de Lisée, c'est vrai que c'est un chef qui est pas qui m'aime me suivre ou non, plutôt je vous oblige à me suivre. C'est vrai qu'il est dans le consensus, puis c'est vrai qu'il est dans la consultation, etc. Donc là, c'est peut-être la manifestation publique de ce qu'il est en privé. Mais tu sais, au-delà de la personnalité des chefs, Ève-Marie, là, pour moi, la question qui est plus large, qui est plus troublante pour le PQ, c'est sa raison d'être, la souveraineté, et je sais que les péquistes n'aiment pas ça quand je dis ça, mais la raison d'être du Parti québécois, la souveraineté, est de moins en moins populaire.
Mais comment c'est encore l'article 1.
C'est encore l'article 1. Comment tu peux survolter cette idée-là? Tu sais, là, on fait booster nos autos de ce temps-là. Là. Comment tu peux booster l'idée de la souveraineté? Je le sais pas. Mais quand tu regardes la portion du vote populaire du Parti québécois depuis plusieurs élections, sauf une, ça recule tout le temps. C'est-tu le PQ le problème? C'est-tu la souveraineté? Moi, je pense que c'est plutôt l'idée de souveraineté qui est en train de s'effacer des esprits. Puis ça, t'auras beau avoir le chef le plus charismatique au monde, un chef qui marche sur l'eau, qui peut transformer l'eau en vin, ça va être tough quand même, parce que ton idée première, les gens l'achètent de moins en moins, mais les Québécois sont très surprenants aux urnes. Ça se peut qui sont tellement imprévisibles, les Québécois, que qui sait, peut-être que ce sera l'idée du siècle puis que Jean-François Lisée va être premier ministre dans 8 mois.
Ouais. Patrick, la souveraineté, c'est peut-être pas une idée qui pogne, mais une idée qui pogne de ce temps-ci, c'est faire miroiter qu'on peut s'enrichir rapidement, qu'on peut devenir millionnaire à 30 ans vraiment là, aller chercher des gens qui vont investir, qui vont te suivre, qui vont t'écouter. L'histoire d'Éliane Gamache-Latourelle, finalement, on a découvert qu'elle était endettée par-dessus tête. L'histoire de ta collègue Nathalie Petrovski était vraiment fascinante à lire, là. Toi, est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu l'avais rencontrée, cette fille-là? L'as-tu interviewée? Je me souviens pas.
Non, je ne l'ai jamais interviewée. Je savais qu'elle existait parce que je la voyais passer un peu dans les médias. Puis, tu sais, elle n'avait pas une couverture là incroyablement vaste. Là. Mais je veux juste te corriger, Marie.
Ah,
tu sais, tu dis, de nos jours, c'est une idée ça qui est populaire, essayer de devenir riche rapidement, jeune. Tu sais, les Anglais ont une expression pour ça, là, tu sais, « get rich schemes ». Des patentes à gosses pour devenir riche, là.
Ah oui, c'est
de tout
vrai.
Temps, ça
enlève le de nos jours, temps. De tout temps.
Ben,
t'as
oui, tu sais, les ventes pyramidales, les trucs à la Ponzi, etc., là, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que les gens aimeraient devenir riches rapidement. Puis, tu sais, dans toute cette saga-là, là, de la jeune millionnaire, la pharmacienne, moi, ce que je voyais, c'est des gens dont la vulnérabilité a été exploitée. Puis je veux pas dire d'une façon criminelle exploitée, là. Et une partie de la vulnérabilité de beaucoup de gens, c'est leur situation financière. Moi, je crois pas que les gens qui ont, entre guillemets, acheté ces enseignements à cette femme-là, soit en achetant du coaching ou en allant à ses conférences, je pense pas qu'ils voulaient nécessairement devenir millionnaires. Mais ils voulaient améliorer leur situation financière, ce qui est probablement le lot de la moitié des gens qui nous écoutent présentement.
Ils voulaient être inspirés aussi, Patrick.
Oui,
inspirés par un récit de réussite.
Puis, probablement que quand tu vois une femme comme ça, si t'as pas grandi dans l'argent, mais ça t'impressionne. Mais pour moi, la première responsabilité, là, sincèrement, là, oui, les médias ont un mea culpa à faire, c'est vrai, puis il faut qu'on apprenne de trucs comme ça. Là, je comprends, j'accepte. Sauf que tu es un éditeur qui s'appelle Un Monde différent et tu choisis de publier l'histoire de cette femme-là en titrant La jeune millionnaire et en écrivant sur le livre une histoire vraie. Moi, là, comme citoyen, comme consommateur, je me dis que l'éditeur a fait son travail. Il a fait un travail pour vérifier si c'était vrai. Et là, ce qu'on a appris dans le communiqué de presse, complètement délirant, que l'éditeur Un Monde différent a envoyé la semaine passée, Eve-Marie, c'est qu'il n'y a aucune vérification digne de ce nom qui ont été faites. Ça, c'est un peu troublant. C'est comme si on avait accepté ce qu'elle avait dit à son co-auteur, Mark Fisher, puis on a publié. Ben, je m'excuse, mais comme éditeur, tu as un peu de responsabilité. Moi, je pourrais pas faire ça dans la presse. Toi, tu pourrais pas faire ça comme station de radio, comme animatrice de radio. Mais quand tu es un éditeur de livres comme ça, ben il semble que ça passe. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça.
Tu te souviens dans le communiqué, Patrick, il me semble que c'était même écrit. On a particulièrement aimé le passage du chapitre 7 au chapitre 10-11, si je me souviens bien. Donc, c'était juste une partie du récit qui les inspirait, puis qui avait décidé de dire, on cautionne donc toute l'œuvre, puis on va la publier, parce qu'on aime ce petit bout-là là, de réussite, là, mais ils ont donc vérifié absolument rien.
Ben, écoute, dans le communiqué de presse, Un Monde différent disait aussi, il est possible que une femme de cet âge-là ait 5 pharmacies. Elle était bel et bien la nièce d'un fondateur du Cirque du Soleil. Peut-être qu'elle était, là je paraphrase, peut-être qu'elle était millionnaire sur papier. Et ils disent aussi, on n'a pas demandé un audit, t'sais, une vérification comptable. Ben, pourquoi t'écris une histoire vraie sur la couverture? Pourquoi tu dis que c'est la jeune millionnaire? Je veux dire, quand tu te mets à faire des vérifications, on l'a vu, son histoire devient pas mal moins attrayante. Et s'ils avaient vérifié ces gens-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de livre à faire avec elle. Et là, commercialement, évidemment, ça devient pas mal moins intéressant.
Quand tu vas écrire ton livre, toi, Patrick, qu'est-ce que tu vas écrire sur la couverture? Aucune bullshit!
Écoute, je peux te garantir que si j'écris un livre, ce ne sera pas pour dire aux gens comment devenir riche.
Non, mais sérieusement, as-tu déjà pensé peut-être relier toutes les histoires ou les chroniques que tu as rédigées dans la presse? Tu sais, tu as tellement des fois des histoires qui sont pas dans l'actualité, les portraits de gens que tu fais, les histoires plus humaines. As-tu déjà pensé en faire un collectif puis publier?
Ah, écoute, non, pas vraiment.
Ah bon,
je sais pas, tu sais... Pour moi, la barre est haute. T'sais. Sincèrement, là, il y a peut-être 5 chroniques chaque année dont je suis content. Tu comprends? 5 chroniques. Ben oui, puis il y a beaucoup de chroniques qui sont d'actualité. Il y a beaucoup de chroniques qui vieillissent pas toujours bien parce que c'est collé sur l'actualité brûlante. Puis, oublie pas une autre affaire. Hein. Pogliar, il en a jamais fait de recueil de chroniques. Fait que des fois, je me garde une petite gêne en disant lui, il n'en a pas fait. Moi, j'en ferai. Mais je ne sais pas. On verra.
Ouais, ça dépend de nos mentors.
Mais merci de la suggestion.
Ouais, c'est bon. Alors, Patrick, en attendant, tiens, on se reparle mardi prochain.
Salut, Anne-Marie.
Salut, bye.